sommes dans l'atelier de Jean-Paul Marqueschi qui vient de sortir aux éditions Art 3 un grand sommeil noir, Le Greco. Bonjour à vous.
Bonjour.
C'est un grand plaisir d'être là et donc vous avez une grande passion pour ce peintre et il a influencé vos propres travaux.
Oh, c'est une passion vraiment d'enfant, hein, puisque je l'ai découvert dans les dictionnaires illustrés Larousse à la page peinture espagnole et cette passion où je devais avoir, je ne sais plus quel âge, mais enfin autour de 12 ans, 13 ans ou 14 ans, ne s'est jamais éteinte. Voilà, donc on a dépassé le demi-siècle pour cette passion-là. Alors, elle était d'abord peu informée, bien entendu, cette première passion, mais ensuite, dès lors que j'ai commencé à voyager, j'ai été à peu près partout où on pouvait voir des Grécos, bien entendu. Donc, voilà, Madrid. Le Louvre est pauvre, malgré tout. On a deux Grécos. On a le portrait de Saint-Louis, qui est exposé, bien sûr, à la rétrospective du Grand Palais. Et puis, on a une crucifixion, qui est très belle, qui est un grand tableau. Mais donc, on a très peu. Je crois bien que c'est la première rétrospective qui est consacrée, hein, au Gréco. Ce qui en dit long, un peu, sur une certaine résistance, hein, de peut-être l'esprit français, qui a peu... Voilà. La chose va changer, peut-être pas officiellement, mais en tout cas parmi les érudits, les écrivains, et les meilleurs d'ailleurs, en grande partie grâce à Rilke. Rilke, que je cite, a des lettres qui sont à la hauteur, à mes yeux, de la puissance, de la beauté, de la douceur, de la sauvagerie du Gréco. Mais ensuite, on a eu, il y a Barrès, qui a écrit un très joli livre, qui est un des premiers quand même à avoir défendu, qui s'appelle Le Gréco ou le secret de Tolède. Mais il y a eu les peintres, et notamment Manet, que j'admire infiniment, et qui, lui, doit beaucoup aux Grécos. Il y a des Grécos qui sentent des Manets, picturalement, notamment, hein, parce qu'il y a de l'inachevé, il y a une sorte de vitesse de la touche, du pinceau, de la main, qui fait beaucoup penser aux Grécos. Mais dans le cas de Manet, c'est une passion informée. Il est un des rares peintres à avoir été à Tolède. Donc c'est une histoire ancienne et c'est un objet absolument infini. C'est très difficile d'ailleurs de parler ou d'écrire sur la peinture, hein. Donc il y a toujours quelque chose pour moi de décevant dans le fait de parler, puisque je crois peu à l'improvisation. Mes livres ont tous eu mon histoire de l'art, qui est une histoire de mes éblouissements. Hein. Chez moi, la pulsion critique est très faible, elle est peu féconde. Il y a des gens très doués, hein, pour la critique. Donc je ne peux parler que de ce que j'aime. Voilà. Pour mon histoire de la beauté, c'est vrai pour le Gréco d'ailleurs, le dernier petit livre, il existe, je crois qu'il y a 23 versions. Ça veut dire que, je reprends un mot de peintre, le repentir, ce qui est l'équivalent de la correction, pour moi est décisif. Hein, le repentir est aussi un exercice fécond. Si j'exposais les premiers jets de mes propres tableaux, ce serait une horreur. Alors, il y a quelques exceptions. Hein. Il y a des œuvres qui sont sorties d'emblée et qui n'ont jamais été retouchées. Mais dans le cas du Gréco, je ne sais pas si on a radiographié, hein, pour savoir s'il y a des repeints. Mais dans le cas, par exemple, d'une œuvre que le Gréco aurait vue, celle du Pantormo et celle du Rosso. Par exemple, il y a un très beau Rosso, une déposition au Louvre, et on a consacré à ce tableau une très belle exposition, centrée uniquement sur le Rosso. Donc c'est le dernier état, c'est comme une caméra, et là on est vraiment dans le moment de ce qu'on appelle la déposition, le corps est mort. Et on a radiographié et on voit tout le processus, et le Rosso a changé du tout au tout la composition. C'est le mérite de ces examens radiographiques, ce qui montre bien qu'il y a du repentir. Pour moi, il n'y a pas de beauté sans repentir.
Votre livre est petit, c'est très relatif, mais il est très dense en tout cas, ça c'est certain. Et j'ignorais cette compulsion à réécrire, mais maintenant que vous me l'avez dit, je la sens, oui, je sens qu'il y a des couches en profondeur qu'on pourrait effectivement... le lire aussi avec un outil qui passera à travers les différentes couches. Et dans votre livre, vous insistez beaucoup sur l'insularité, ça vous paraît. Donc il y a quatre grandes 30 époques dans la vie du Gréco. Il y a sa naissance dans l'île de Crète, son voyage vers Venise, où il se forme à la peinture telle qu'elle existe en dehors de sa province, comme il la pratiquait de façon provinciale. Ensuite, il va se faire perfectionner à Rome, où il se confronte aux plus grands. Et puis il va à Tolède, où il vivra la majeure partie de sa vie, comme nous sommes montés à Paris et que nous avons vécu la majeure partie de notre vie à Paris, exactement dans le même mécanisme. Il deviendra un peintre espagnol célèbre à Tolède. Et donc vous insistez beaucoup sur cette première étape, sur la naissance, sur les racines, sur l'insularité, sur la partie crétoise de l'existence du Gréco.
Oui, alors, ça n'est pas non plus une origine anodine. Il veut être peintre très très tôt, et donc il va d'abord, sa première identité est byzantine, stylistiquement. Alors, c'est un art qui a sa grandeur, mais qui est abandonné en Occident, et même en Orient, depuis de nombreux siècles, n'est-ce pas? Mais c'est un art qui est présent dans l'exposition. Et il y a très peu. Il faut aller dans l'île de Syros pour voir, par exemple, un tableau de cette première manière byzantine qui s'appelle « L'Adormition de la Vierge ». Et c'est un mot qui m'a beaucoup plu, beaucoup intéressé, puisqu'il n'a qu'un seul attribut. Il ne désigne que un mystère de la religion chrétienne, à savoir que la Vierge ne meurt pas. N'est-ce pas? Le dernier sommeil de la Vierge, c'est la mort. Mais elle ne meurt pas. Donc elle n'aura pas droit, comme pour le Christ, par exemple, où le christianisme va au contraire nous donner tous les états de l'agonie, jusqu'aux étonnantes et si belles dernières paroles du Christ, les sept dernières paroles du Christ, la dernière étant, je les ai relues là récemment, étant « j'ai soif ». Bon, et c'est très beau. Donc, la dormition est réservée à un personnage qui, dans l'art du Gréco, tient une grande place. Et le visage de la Vierge, c'est toujours un peu le même visage. C'est probablement déduit de sa femme, qui appartenait, il me semble, à la noblesse madrilène. Et c'est une déclinaison toujours à peu près du même visage. Il y a très peu de portraits dont on peut penser qu'ils sont d'après le motif. Tandis que pour les hommes, non. Il y a une incroyable variété des corps, et des corps vrais. Vous voyez, il n'y a pas ce processus, il n'y a pas cet archétype. Si on dit deux mots de l'art byzantin, l'art byzantin est quelque chose qui n'est pas loin de l'écriture, n'est-ce pas? Puisqu'on a à la disposition des peintres des registres, mettons, on a 50 façons de peindre le nez, de faire 50 façons de peindre les yeux, on a de peindre les tissus, les ailes des anges, etc. Et il va piocher dans, le peintre va piocher et combiner. Donc c'est une combinatoire qui peut faire penser, il y a un alphabet qui est livré par le code, et donc c'est un art du montage, on peut dire. L'autre chose qui va revenir chez le Gréco comme une extraordinaire singularité, et qu'il faut mettre sur le compte de son insularité crétoise, grecque, c'est, on pourrait dire, une sorte de simultanéisme des temps. Il va mettre dans un seul tableau des temps différents. On pourrait le voir, on peut prendre 50 exemples, mais par exemple, il y a deux versions de l'agonie du Christ dans le Jardin des Oliviers qui sont magnifiques, donc dans la rétrospective du Grand Palais. Et donc on voit par exemple, donc, le Christ est dans l'agonie, un ange apparaît, et donc le Christ est dans la souffrance, il est dans le dernier moment de sa vie. Les apôtres préférés sont plongés dans le sommeil. Donc, et là, donc, on a ce thème du sommeil qui court un peu dans de très nombreuses œuvres. Qui, selon les différentes versions, les deux exposés au Grand Palais montrent une sorte c'est une sorte de pli translucide qui peut évoquer une sorte de voile de placenta. Et ils sont endormis, n'est-ce pas ? Ou alors, dans d'autres versions, dans du Jard ou d'autres, on pourra les voir qui ne sont pas dans une bulle, et ils sont devant le Christ, c'est-à-dire au premier plan. Ce qui est singulier, enfin, et génial dans le cas du Gréco, c'est que ce qu'on pourrait interpréter comme des simples copies, les maîtres ont souvent copié ou laissé copier par l'atelier leur production, quand elle avait un certain succès. Dans le cas du Gréco, elles sont de sa main, et elles sont toutes différentes. Donc il ne cesse d'inventer, non seulement dans la structure, mais dans la couleur. C'est pour ça qu'il aurait été tout à fait bienvenu qu'il y ait, par exemple, toutes les Marie-Madeleine qu'il a multipliées. Il n'y a pas une seule Marie-Madeleine et où il y a là quelque chose de vraiment extrêmement audacieux, puisque là, on touche au naturalisme, à la fameuse Montonnière de Durer ou la machine à dessiner de Léonard, c'est-à-dire un point de vue monoculaire, n'est-ce pas ? On a un point de vue fixe. Et là, il va vraiment toucher à la vision elle-même, n'est-ce pas ? Ou en tout cas, une certaine idée de la vision, puisqu'on va avoir simultanément, on a quelque chose qui fait penser à ce que le cubisme va déchaîner, à savoir le crâne qui est posé sur le livre, qui est au premier plan d'une Marie-Madeleine, par exemple, ne tient pas, il devrait glisser et tomber. Il y a des angles, donc il y a une structure qui se trouve réorganisée, non plus dans la logique naturaliste, mais dans une autre, elle obéit à une autre loi, qu'il est le premier à fonder, tout de même.
Oui, je suis entièrement d'accord. Il y a sur ce côté artificiel, sur ce côté de répétition, sur ce côté de disposer d'un certain nombre de signes qu'on réassemble et qu'on à l'infini, en fait, c'est comme des réécritures d'un même motif. Il y a quelque chose, effectivement.
Ça fait penser à la variation.
Il y a un rythme. Il y a un rythme.
Ah oui.
Et il y a ces élongations. Et il y a alors une idée qui est très bien aussi, c'est l'idée du cheval qui est très bien. C'est pas un jugement de valeur. Il y a du sommeil, il y a beaucoup de sommeil, et c'est effectivement un sommeil qui est dirigé contre le rêve. C'est un sommeil qui n'est pas du tout bavard, qui ne fait pas du tout image, qui ne cherche pas du tout. Justement, ça ne veut pas faire image, ça veut pétrifier pratiquement. C'est à la fois pétrifié et pétrifiant. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, en effet, il y a une texture. Par exemple, les quelques œuvres qu'on a mises sans protection, sans vitre, il y a une sorte de bonheur de la touche. Il y a quelque chose qui a l'air d'avoir été sculpté autant que peint. Donc il y a une texturologie très très riche qui est une des dimensions parmi tant d'autres que recèle n'importe lequel de ces tableaux. Mais, alors, peut-être que quelque chose m'a échappé, il y a tout de même, puisqu'il y a les peintres du sommeil, depuis que l'art existe, n'est-ce pas, et c'est ça que la plupart des peintres ont traité. C'est-à-dire, on a, par exemple, jusqu'à Matisse, hein, on a un tableau très beau qui s'appelle Le rêve, mais on n'a pas de rêve. On a quelque chose qui donne le sentiment intérieur, d'ailleurs. Quand on s'endort, on a une étrange dilatation. Le corps se dissout, se défait. Et dans le tableau du musée d'art moderne, musée national d'art moderne à Beaubourg, s'appelle Le rêve. En réalité, on ne sait rien du contenu du dormeur. On ne sait pas. Dans le cas du Gecko, il y a quand même aussi une contribution, à mes yeux, éblouissante et vraiment extraordinaire. Il y a un songe, c'est le fameux, qui est à Paris et que on a prêté, qui est un des tableaux les plus extraordinaires du Gecko, par la couleur. C'est le qui s'appelle, il a un double titre, on l'appelle tantôt l'adoration du nom de Jésus, ou alors le songe de Philippe II. Et en effet, là, on a quelque chose qui entre, on n'a pas le sommeil, on a, c'est une peinture de rêve. On a le rêve, on a le... Et même ce que l'Espagnol ménage deux mots pour désigner le rêve et le sommeil. Soigne, ça veut dire rêve, mais ça veut dire aussi sommeil. Donc il y a le sueño et il y a le sommeil. Et le mot désigne à la fois le contenu et l'état physique, hein, n'est-ce pas, cet état étrange qui est ce moment très nervalien. Il y a des pages très très belles dans Aurélia de Nerval où il dit que le sommeil ressemble à la mort, n'est-ce pas? Donc il y a quelque chose qui va nous parler de la métamorphose physique du corps, si tant est qu'on puisse la capter d'ailleurs, vécue intérieurement, qui est la chute dans le sommeil.
Et c'est un contemporain parfait de...
Tout à fait.
Le Gecko.
Ah, totalement.
Et je vois pas, il y a l'aspect picaresque qu'on peut retrouver chez Ribera, que vous aimez vous aussi.
Oui.
On le trouve pas du tout chez
non,
Gecko.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Il y a pas d'aventure en fait. Donc ce registre, ce registre byzantin reste dans son espèce de... C'est symétrique, c'est dressé, c'est... Il y a des élongations, enfin, il n'y a pas d'aventure, en fait.
Non, et même, il n'y a pas, par exemple, un autre peintre que j'admire infiniment, il n'y a aucune expérience du mal, aucune expérience du négatif, et il n'y a pas la moindre ironie chez Le Gecko, du tout. Moi, j'ai quelques méfiances, je n'aime pas qu'on fasse le malin. Autant, l'ironie proustienne ou l'ironie littéraire est merveilleuse. Mais il n'y a strict, c'est un art sans, d'une certaine façon on peut dire, sans violence et sans aucune ironie dans le cas. On a été choqués quand j'ai situé Le Gecko du côté de la joie. Ça peut sembler paradoxal, puisqu'on n'y voit que des crucifixions, des mises au tombeau. 90% des sujets traités par Le Gecko sont inspirés par les évangiles, n'est-ce pas? Et n'oublions pas que pendant des siècles, il est rare, rares sont les peintres qui sont libres de leur sujet. Dans le cas du Greco, on a quelque chose dont on ne sait pas trop si c'est son désir. Il y a deux ou trois œuvres qui échappent peut-être à la aux pressions des commanditaires de la commande. C'est le Laocoon, qui là n'a rien de chrétien, voilà, ni chrétien orthodoxe, ni catholique. Et puis, ce qui me semble aussi une sortie du contrôle théologique de l'œuvre, parce que la plupart de ces commanditaires, ce sont des cardinaux, des religieux, des curés. Hein, dans le cas de l'enterrement du camp d'Orga, c'est le curé de l'église Saint-Antomé à Tolède, par exemple. C'est le Laocoon, puisqu'on a découvert à ce moment-là une sculpture grecque de ce thème du Laocoon. Et c'est l'occasion, pour, d'ailleurs, d'un bouleversement spatial, enfin absolument vertigineux, qui est très très beau, dans le cadre, puisqu'on a un serpent qui s'enroule autour du prêtre Laocoon. Et puis on a déjà, quand même, dans le même tableau, ce simultanéisme des temps. On a plusieurs temps. On a derrière, après, puisque c'est la prise de Troie, il y a le cheval qui va entrer dans la ville et la ville de Troie. Mais c'est à peu près les deux seuls échappés. Or, mais on peut dire aussi comme quoi la contrainte liée au sujet ou au sens est sans force, en tout cas s'agissant d'un peintre véritablement supérieur, enfin unique. Dans les sujets les plus religieux, il ne cesse d'inventer quand même. Voilà. Alors l'autre tableau, c'est l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse, qui a beaucoup séduit les peintres, hein, et qui va produire un tableau qui aura d'ailleurs un retentissement direct, puisque le tableau était à un moment était mis en vente à un prix absolument dérisoire. Les Grecos se sont vendus très peu d'argent dès la fin du 19e. Et le Laocoon, Picasso l'a vu chez un autre peintre, je crois, catalan, enfin Zuloaga. Et donc ils avaient à côté, à Paris, hein, un tableau dont on dit qu'il est incomplet, qu'il a été coupé, mais qui est absolument vertigineux. Et on ne sait pas trop ce qu'on voit, n'est-ce pas, qui est l'Apocalypse, tiré de l'Apocalypse de Jean. Voilà. Donc, mais il faut rappeler cela. Alors, j'évoque aussi dans mon livre quelque chose qui pourrait, en effet, frôler le mauvais goût ou la maladresse. Voilà. Il y a quelque chose qui est peut-être plus grand que la beauté. Hein, et c'est la plasticité, c'est-à-dire le comment est plus important que le quoi, hein, quoi peindre, le sujet, qu'est-ce que c'est. Mais comment est-ce peint? Le Greco est vraiment le peintre de ce que j'ai appelé la fusille, c'est-à-dire la manière de peindre. Et là, il y a une incroyable invention. Enfin, là, l'anachronisme bat son plein. Il y a des couleurs qui n'ont plus aucune vertu narrative. Il y a de la couleur qui jaillit sans aucune, en dehors de tous les codes naturalistes. C'est un éclat somptueux qui peut évoquer une sorte de fauvisme. C'est comme ça que je le vois, mais il me semble que c'est comme ça qu'il est.
Et donc vous travaillez avec le feu, et il y a un rapport entre le feu et le Greco qui vous paraît tout à fait fort et central aussi.
Alors, ce qui m'a étonné, je me suis souvent posé la question, d'où vient le feu dans le cas du Greco? les représentations du feu, enfin ce qu'on appellera le ténébrisme, où on a des images de la flamme, hein, ça va, on pourrait dire que lui le fonde. Il le découvre d'une certaine façon, il l'annonce, mais il ne va pas, à mon avis, ce serait très incomplet, on ne peut pas le classer parmi les peintres du ténébrisme. Ce n'est pas un Georges de la Tour, ce n'est pas cette tradition qui sera extraordinairement féconde au cours du XVIIe. Et le tableau que je commente est, qui d'ailleurs d'une certaine façon va interrompre le mouvement des copies, hein, puisque m'interrogez sur l'origine insulaire, mais il va quitter son île, il arrive à Venise, et là, il prend la mesure de son retard. Il découvre 2 siècles de pensées peintes dont il avait probablement une certaine idée. N'oublions pas que Candi, l'actuel Héraclion, où j'ai été, hein, moi j'ai été exposé en Crète, le hasard m'a... m'a fait découvrir la terre même de Crète, n'est-ce pas ? Il reçoit, Candie, qui est une colonie vénitienne, il reçoit des gravures. On voit bien que quelque chose excède le simple héritage byzantin. Mais il y a un départ qui se fait... il a 26 ans, hein, et donc il va... débarqué à Venise à peu près à l'âge de 26 ans. C'est un peu tard pour un peintre parce que chez lui, une première identité byzantine, picturale byzantine, est constituée. Il est déjà à Candie un des peintres les plus chers, les plus recherchés. Dans le cas de l'exposition de Paris, on n'a pas, hélas, la Dormition de la Vierge, qui est une de ses premières œuvres, elle est dans l'île de Syros. Donc il faut aller à Syros. Dans la cathédrale de Syros se trouve... mais je ne sais pas pourquoi elle n'est pas dans l'exposition de Paris. Donc il y a quelque chose de... Et pour autant, puisque vous me demandiez en quoi l'insularité reste un élément extrêmement important... On pourrait trouver des signes, mais par exemple, il ne renoncera jamais à son nom grec. Donc, il signera toujours en caractère grec jusqu'à sa mort, jusqu'au dernier tableau où la maladie s'aggrave, qui est un des plus beaux, qui est le seul tableau non signé, et qui est l'Adoration des bergers, qui est l'année de sa mort, en 1614. Mais donc, toujours, il y a ce paraphe merveilleux. Donc, il y a une qui témoigne de son insolence, de son indépendance, et qui signale toujours son appartenance grecque.
Vous dites à propos de sa vue de Tolède que pardon. C'est la première peinture sans personnage.
Écoutez,
je trouve ça très impressionnant, c'est un scoop.
Non, ça a dû déjà être repéré. Encore une fois, je ne suis pas historien, mais il me semble que c'est l'un des premiers paysages sans personnage de l'art occidental. Maintenant, on va peut-être en découvrir un ou deux autres. Hein, les historiens vont venir me taper sur les doigts. Mais oui, on peut le dire.
On fait naître le paysage, c'est Salvatore Rosa qui est hollandais, c'est le XVIIe siècle.
Alors, c'est que j'aime beaucoup.
Deux tiers, un tiers, en fait, tout de suite, c'est fait tout de suite. Et c'est lié à la réforme, c'est lié au fait de vendre de la peinture à l'huile au marché, c'est-à-dire avoir des motifs non religieux. Enfin, il y a toute une histoire. Alors que là, cette vue de Tolède est un objet électrique, on peut le dire.
Électrique.
C'est totalement électrique. Il y a toujours cette foudre qui vient de tomber. Les couleurs sont vraiment... Elles hurlent. Alors, il y a ce fond hiératique qui lui vient de son fond byzantin qui reste. Hein. On a une impression d'instantané, de justement comme un éclairage de foudre. On a quelque chose qui se fige en une seconde et on a tout sauf la nature, en fait. C'est pas... Alors peut-être qu'il y a une nature espagnole, tolédoise, qui serait brutale et vif et tranchée comme ça.
C'est paradoxal. C'est à la fois, à mon avis, un phénomène purement électrique. Et c'est peut-être que ce que le Gréco nous permet de voir, c'est la plus petite unité de temps que l'œil puisse capter. Donc on ne sait pas trop, est-ce que la foudre est tombée ou est-ce qu'elle va arriver ? Donc, il y a vous savez, ces flashs qu'on a quand on est n'importe où d'ailleurs, mais dans la nature, et que dès lors qu'elle est tombée, la lumière a disparu. Donc, et là, il y a une remarque de Warhol au sujet de, qui peut sembler incompréhensible, que je trouve très juste. Lui dit, bon, évidemment, le tableau a été acheté par les Américains, donc il faut aller à New York, au Metropolitan Museum, pour le voir. Mais j'ai eu la chance de le voir à Paris. Il a été montré... parce que je n'ai jamais été aux États-Unis. On l'a souvent prêté. Et il dit, dans La vue de Tolède, le Gréco invente le cinématographe. C'est très juste. C'est très juste. Parce qu'on a, on pourrait dire, l'image mouvement. Et en effet, c'est comme une compression de temps. Mais là, c'est l'unité la plus petite que l'œil humain puisse capter. Et bon, et puis, au fond, on pourrait... Alors, il y a les pages absolument émues, et c'est peu dire, dans une lettre à Rodin, dans ces pages écrites par Rilke, où il découvre, et d'ailleurs, il écrit tout de suite à Rodin, et il est... Il découvre le Gréco avant d'aller. D'ailleurs, il va compléter, parce qu'on a besoin de voir Tolède. Enfin, on voit à quel point le lieu travaille la peinture. Et Tolède est très, très, très souvent représenté. Même si dans la vue de Tolède, on a remarqué que la tour du, bon, elle n'est plus, n'a plus le même aspect. L'une est octogonale, lui ne la, il la change. Le fleuve est détourné de son cours, mais c'est bien Tolède. Et c'est le... Moi, j'ai dormi dans un parador à Tolède qui était probablement le point de vue qu'a choisi le Gréco. Donc, il y a un départ réel, il y a une sorte de vérité topographique, et puis il y a, en effet, c'est une énorme songerie. Mais il y a quelque chose de presque physique, objectif, n'est-ce pas ? On ne sait pas trop. Est-ce que l'orage, est-ce que la foudre est tombée ? Est-ce qu'on attend qu'elle apparaisse ? On a cette déchirure du temps, n'est-ce pas ? Et de la lumière, il y a quelque chose de presque objectif pour la vue de Tolède, mais qui malheureusement n'est pas à Paris.
Il fait plus penser à ce que faisait Warhol lui-même, en fait, à des instantanés, à des flashs, à une mise au point sur une image fixe qui peut se répéter qu'à un mouvement, à une histoire, comme on a dit avant là, à propos de Cervantes. Et je voulais vous demander, quand vous voyez dans le Larousse, le Gréco à l'âge de 12 ans, vous en faites quoi ? Vous vous mettez à dessiner ?
Oui, mais j'ai commencé par des copies. Ouais. Il doit bien se trouver dans Bastia toutes sortes de copies, probablement effroyables d'ailleurs, des peintres que je découvrais dans un certain isolement. Dans le milieu de pêcheurs et de dockers dans lequel je suis né. Oui, donc j'ai commencé, moi, par la copie. Et au fond, je trouve que c'est une excellente propédeutique de la peinture. C'est comme ça que la plupart des peintres entraient dans un atelier. Bon, c'est le cas, par exemple, il y a mille exemples, mais là, quand on expose actuellement Léonard de Vinci est d'abord dans l'atelier de Verrocchio. Et il fait, c'est un très jeune homme, et Verrocchio le charge d'achever des tableaux. Puis il y a le fameux... il y a un tableau dans lequel apparaît un ange, je ne me souviens plus quel est son titre, qui est à Florence, je crois, et où le public, d'un seul coup, se dit « Mais cet ange, on n'a jamais vu cet ange-là. » Donc, d'où la jalousie de Verrocchio, puisque l'élève dépassait, ou en tout cas sortait de l'influence du maître. Donc, la copie, pour moi, reste une excellente... on peut s'approprier, et c'est une façon de se fonder. On peut penser que c'est un exercice idiot, mais moi je serais tout à fait favorable à ce qu'on expose, par exemple, des copies des maîtres. C'est le cas, par exemple, d'un autre de mes peintres préférés, français. Ça aurait pu être, d'ailleurs... Il y a une puissance en lui qui est très très rare. Je pense à Géricault. Et j'ai eu l'occasion, dans certaines rétrospectives consacrées à Géricault, qui est mort très très jeune, hélas, on a mis les copies que Géricault avait faites. Et notamment, je me souviens, il a copié l'un des plus beaux tableaux du Louvre, d'ailleurs, qui est la déposition du Titien, qui est dans la salle des Italiens. Vous voyez, qui est un tableau d'une incroyable beauté. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a tout le génie du Titien, parce que c'est une copie, je crois, légèrement plus petite que nature, ou même peut-être que c'est exactement le même format, et on a déjà le génie de Géricault. Donc une copie n'est pas du tout l'expérience d'un... C'est pas un exercice bête. Enfin, il est bête si le peintre n'a rien à y mettre. Donc la copie, et dans le cas du Gréco, ce qu'on apprend, par exemple, c'est que le Gréco a copié la totalité des œuvres qu'il a faites. Pour lui. Et voilà. Donc il y a comme s'il voulait conserver la mémoire de tout ce qu'il avait fait. Et il s'y produit dans ses copies de lui-même. Des écarts. Il n'y a pas une copie qui ressemble à une autre copie. C'est le lieu d'une expérimentation incessante. Voilà, il ne s'arrêtera qu'à sa mort.
On parlait de Proust, Proust a parlé du Gréco, et il fait des pastiches, Proust, pour commencer. Et le pastiche est une très bonne manière d'éviter la copie.
Mais oui.
Si on fait effectivement des exercices de style, on voit ce qu'on fait, on comprend mieux.
Bien sûr.
Et aussi, Benjamin disait que pour reconnaître un texte, il fallait le recopier à la main. Et,
très juste.
C'est des choses, si on fait des petits exercices comme ça,
oui.
On ne fait pas de copie inconsciente. Après, on n'adopte pas un style sans le savoir. Et bon,
oui.
Sur Proust, il y a un côté essayiste. En même temps, il fait une espèce de synthèse. Donc, il met aussi beaucoup d'intelligence dans son écriture de fiction. En essayant de la neutraliser, en essayant de quand même la ramener dans le registre. Et ça a quelque chose à voir avec ce que font les peintres
tout
très souvent.
Fait. C'est les romans invisibles.
Tout.
C'est tout à fait l'équivalent des copies.
C'est tout à fait.
Oui. Et d'ailleurs, on disait que Proust était très drôle, hein, que dans la vie, il n'imitait pas que les maîtres qu'il admirait, hein, que les écrivains qu'il admirait. Il imitait tout le monde. Il avait une façon d'imiter, il était très doué pour l'imitation. Et en effet, l'équivalent, c'est les mélanges et les pastiches, qui sont au fond le laboratoire de Proust, ce produit-là. D'ailleurs, il va recopier des passages entiers. C'est le cas du Comte Sainte-Beuve, c'est déjà la totalité de la recherche.
Et après, il va
recopier des morceaux entiers du Sainte-Beuve qui vont passer pratiquement sans retouche dans la recherche.
Et après, il attribue à un de ses personnages les propos de Sainte-Beuve à l'intérieur de la recherche. Donc on a là une espèce de mise en abîme absolument folle. À propos de Fortune critique, on pourrait le lire à l'envers, en fait. Mais là, je parle aux praticiens. Le retour du Gréco, cette première exposition monographique du Gréco à Paris, qu'est-ce que ça dit de nous? Cette actualité du Gréco, pour vous qui êtes dans le milieu de l'art, qui pratiquez, qui suivez ces choses, en quoi est-ce que l'époque appartient au Gréco? Qu'est-ce que le Gréco dit de nous aujourd'hui?
Il me semble que c'est absolument infini. C'est-à-dire, c'est ça qui est le plus singulier, c'est que le Gréco récapitule la totalité des temps traversés par la peinture, n'est-ce pas, sans en abandonner jamais un seul, et pourtant, le Gréco, c'est l'ouvert, pour reprendre un mot de Rilke, hein, le grand ouvert, c'est bien le Gréco. Il n'est pas impossible. Dans mon cas, j'ai fait quelques copies littérales, n'est-ce pas? Mais il y a une filiation, même quand je ne le disais pas, dans les différents textes critiques qu'on m'a consacrés, on a en tout cas établi cette comparaison. Voilà, il y a une irréalité totale chez moi des corps. Il y a beaucoup de choses hein, qui peuvent évoquer la déréalisation générale de l'œuvre du Gréco. Même si moi, mon pinceau est littéralement du feu. Parce que dans le cas du Gréco, le feu, je me suis interrogé, je me demandais... Il y a ce tableau miraculeux, vous le verrez dans l'exposition, que je reproduis dans mon petit livre, c'est l'enfant allumant une chandelle. C'est un tableau déjà, il aurait pu fonder son œuvre entièrement sur quelque chose qui deviendra le ténébrisme. Et en même temps, pour moi, c'est le tableau à partir duquel... les plagiats cessent, les mélanges et pastiches, voilà, tout ça cesse, et il entre en lui-même, et ça sera, il y a différentes hypothèses de datation, je pense que ce tableau n'est pas fait en Espagne, qu'il précède de très peu le départ en Espagne. Et après ce tableau, alors il y aura des scandales, hein. C'est une œuvre, il faut bien le relever, qu'il a. Après il y aura le célèbre, le terrible scandale du martyr de Saint-Maurice. Puisque Philippe II lui commande le martyr de Saint-Maurice et se donne un tableau, on peut très bien comprendre, parce qu'on se dit, où est le martyr ? C'était un roi, je crois, assez pieux, presque fanatique. Ce qui n'est pas du tout le cas du Gréco. On peut s'interroger d'ailleurs sur le religieux du Gréco n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on croit, moi je ne crois pas du tout à un Gréco mystique. Je crois que la mystique concerne le langage.
Et on dit que Philippe II avait un Jérôme Bosch dans son intimité sur lequel il méditait, il se fustigeait devant une toile de Jérôme Bosch.
Hein? Est-ce que c'est ce qu'on voit au Prado ?
C'est l'un de ceux qu'on voit au Prado, oui. Ça vient de Charles Quint, en fait. Donc ça vient.
Oui.
Ils viennent de Belgique. Hein, oui. Enfin, qui n'existaient pas. Ils viennent des Flandres. Flandres.
Et même la question, comme on me l'a posée, je trouve que c'est une œuvre qui est peu propice à l'oraison. Il y a des tableaux qui, soi-disant, ont été faits. Alors, certains, par exemple, il y a un merveilleux Saint-Dominique, dans lequel il y a d'ailleurs des altérations. On a l'impression que l'espace comprime le corps et le transforme, comme s'il faisait sentir les forces invisibles ou sensibles, d'ailleurs, de l'air, du ciel. Mais c'est un tableau qui pourrait supporter, puisqu'on le voit en prière. Mais moi, je trouve qu'il y a une telle énergie, c'est pour ça que je le place, moi, du côté du plaisir de peindre et de la joie. On m'a critiqué, enfin, en disant comment on peut en parler pour une œuvre aussi austère, aussi grave et aussi tragique, quelquefois, de la joie. Mais c'est ce que je ressens. Gréco me donne envie de vivre, me donne... Oui, pour moi, c'est un peintre du plaisir de peindre.
Mais le terme joie évoque une certaine sensualité.
Elle y est.
On a plus une impression d'énergie, en fait. De, par exemple, le grand inquisiteur, on est dans un contexte d'inquisition aussi. Hein.
Oui, et, ça rigolait pas.
Philippe II n'était pas très très marrant. Mais le grand inquisiteur Fernando Nino de Guevara, là, par exemple.
Il est à Paris.
Il a l'air de... Bon, on pense à Bacon, mais c'est pas la référence, c'est pas cette
homme. Ah, on peut y penser.
Mais il y a cette espèce d'énergie retenue, là. Il y a cette espèce... on voit plutôt le type qui va se lever, qui va donner des ordres à tout le monde, qui va diriger le monde. On voit pas quelque chose de... Il y a quelque chose de bucolique dans le terme de joie qu'on trouve très rarement dans l'étoile du Gréco. Il faudrait trouver un synonyme qui soit plus énergique.
C'est pas oui, oui, mais on bon, est, a... c'est pas, c'est un tableau qu'a beaucoup aimé Bacon. Hein. On est pas là, on frôle une certaine ironie. Si on le regarde attentivement, on a un prélat hyper embijouté.
Il y a ce côté
la pauvreté chrétienne, on peut la chercher quand même là. Donc on a
bien joué.
Oui, et il a une tête extrêmement intelligente d'ailleurs.
Parfaite.
On a
très moderne. Le nez est magnifique. C'est vraiment
mais,
très,
mais
très
la
moderne.
Peinture, si on s'approche, vous la verrez au Grand Palais, est une peinture comme vous disiez, enfin qui a une sorte de nervosité propre. Il y a une tactilité. Intense
et le rapport,
dans le vêtement.
Le rapport à Cézanne paraît flagrant par moment. Hein.
Ah oui, tout à fait. Alors là, il n'est pas du tout innocent. Puisque si on regarde les photographies du vieux Cézanne dans son atelier, on aperçoit, mais c'est connu. Et là, le jeune conservateur, qui est le commissaire de l'exposition, a reproduit. Malheureusement, il n'y est pas. Enfin, ce n'était pas l'objet. Mais il a reproduit précisément la dame à l'hermine. Non, la couverture même. Cézanne a copié ce qu'on a attribué au Gréco, mais rien n'est moins sûr. C'est d'ailleurs étrange quand. C'est un merveilleux portrait. C'est comme ça que je vois la femme.
Ça, c'est sensuel, du coup.
Ah oui, c'est un portrait absolument extraordinaire. Mais tout dit aujourd'hui qu'il n'est pas de la main du Gréco. Bon, mais à l'époque, Cézanne a cru comme beaucoup. Enfin, ça n'est pas. Personne n'a encore tranché. Voilà. On peut l'attribuer. Il aurait pu le peindre. Il en était tout à fait capable.
J'ai trouvé le passage chez vous qui affirme cette idée de la joie. Le Gréco, c'est ici un sous-acide ou bien en proie à ce vibratoire mescalinien que décrit et peint Michaud dans Misérable Miracle.
Ah oui. Oui.
Quand on a un peu d'expérience de ces choses, ça ne fait pas penser à la joie. Là. C'est un autre type de vibration, de rapport au monde, un autre.
Oh ben, le LSD, c'était quand même assez joyeux.
Oui, il pouvait y avoir des côtés. Enfin, laisser aller.
C'est une image que j'ai.
Mais il y a une espèce d'angoisse quand même derrière, qui court toujours derrière. Enfin, je ne sais pas. Chaque expérience est personnelle.
C'est très difficile d'aller plus loin. Moi, je ne sais pas. On est dans l'incertain. Mais tout dit dans les phrases qui nous laissent, les propos rapportés par Francisco Pacheco, qui est le seul contemporain qui est un très mauvais peintre, mais qui a écrit un traité de la peinture très précieux, il nous permet d'entendre la voix du Gréco. Donc, il est reçu... par le vieux Gréco, donc je crois que c'était en... Il me semble que c'est en 1613, il meurt en 14, donc c'est... Pour l'époque, il va quand même peindre jusqu'à l'âge de 73 ans, et il peint probablement jusqu'à sa mort. Là, on a la phrase de Cézanne qui peut s'appliquer, « mourir en peignant hein, ». C'était le vœu cézannien qui s'est accompli avec le Gréco.
Gauthier dit que chez le Gréco, il y a toujours quelque chose d'inattendu et de chevauchant hors du possible qui vous surprend et vous fait rêver. Vous gardez cette fraîcheur dans votre rapport aux toiles, vous découvrez des choses, ça bouge.
C'est infini. Et ça me rend quand je dis que non seulement...
Ça vous rend joyeux.
Il m'a donné envie de vivre et il me donne encore envie de vivre et de peindre. Il y a quelque chose là qui excède. Et c'est peut-être la vocation de l'art, au fond. Un art qui ne vous donne pas envie de vivre me semble frappé d'obsolescence et de nullité. Enfin, alors, on peut trouver des exemples. Il y a peut-être des œuvres qui refusent, sont des œuvres de la forme. Mais c'est... Il me semble que c'est le signe aussi, enfin. Et c'est pour ça que mon livre est aussi un exercice de gratitude pour la joie qu'il me donne. Et je suis très conscient que tant que j'aurai la force d'aimer la peinture, de peindre, cette peinture féconde du langage. Et donc, féconde pour le langage.
Vous pensez que vos propres travaux donnent de la joie aux gens qui les contemplent?
Alors là, c'est pas à moi de le mesurer, mais... alors, le thème, il y a des thèmes que nous partageons. Moi, je suis dans une époque où, lorsque j'ai commencé à peindre, il y avait une proscription du récit et de la représentation. Et en effet, d'ailleurs, du côté de la représentation, je n'admirais personne, d'une certaine façon. Donc, chez moi, le retour à une certaine forme d'autobiographie et notamment, ce que ça me permettait de réhabiliter le dessin, donc le récit. Hein, c'est le contraire de ce que Mallarmé dit, ainsi on évite le récit. Et le récit peut être une clôture. Bon, il y a des œuvres du récit qui ne sont que du récit en peinture. Et Fougeron, je vous le laisse, enfin, ou je ne sais quel autre peintre qui a restitué le récit. L'image que j'ai restituée, enfin, aussi bien la représentation, qui était un peu maudite, au moment où j'ai commencé à peindre. Ce qui dominait, c'était support surface, les abstractions américaines, que j'admire. Bon, c'était une sorte de dissolution de l'image et du récit, et une disparition totale des corps.
Mais vous aimiez Fautrier.
Ah, infiniment.
Ça se voit.
Et je l'aime encore. Ouais.
Et après, vous avez aimé Jeanne Leroy.
Ah, je l'aime infiniment.
Donc
encore.
On peut quand même, on peut regrouper des choses, on peut faire des
tout
familles.
Tout à fait. Mais le Jeanne Leroy n'a pas, c'est pas un pur abstrait. C'est une image peut-être dissoute, absorbée. On a l'impression, d'ailleurs, dans le cas de Jeanne Leroy, il mettait quelquefois comme Bonnard, enfin 10, 15 ans pour achever. Donc c'est comme c'est une compression de versions. Au lieu de faire des versions séparées, elles sont ensevelies les unes par les autres. Et j'ai une très grande admiration pour Eugène Leroy.
Ça nous a beaucoup surpris, et surtout qu'il est apparu, il était déjà très âgé. Enfin,
très âgé, très, mieux vaut tard que jamais. Oui.
Oui, c'était très très étrange.
Tout à fait.
Et je me souviens de la première expo que j'ai vue à la Galerie de France, il y avait cette odeur de la peinture. C'était extraordinaire, ça me rappelait
la
jeunesse,
du
temps où je me défonçais à la térébenthine. Il y avait un truc quand même absolument étonnant.
Alors, il faut
c'était pas sec, ça continuait à travailler.
Oui, alors il faut saluer quelqu'un d'autre qui m'a permis, moi, de découvrir Jeanne Leroy. C'est Suzanne Paget, qui a été la première en France à organiser au Musée d'art moderne de la ville une rétrospective Jeanne Leroy. Et je ne sais pas quelle intuition l'a conduite, puisque j'avais exposé un an avant le début de ce long travail sur le sommeil et sur la nuit, mon propre sommeil, si vous voulez, que j'avais appelé « Les 11 minuit ». Et elle m'avait, j'avais donc exposé dans le Musée d'art moderne, et au cours de cette exposition, qui avait duré je ne sais pas combien, 5-6 mois, elle m'avait dit « Mais tu viens, je t'invite ». Tu dois rencontrer Eugène Leroy, et je l'ai rencontré. On avait dîné ensemble, dans le dîner de vernissage. L'homme était... D'abord, il est très littéraire. Et l'homme est très... très peu faiseur. Et je lui ai parlé, on s'est parlé, et c'était au moment, je n'ai plus les dates, où commençait sa reconnaissance.
Et dans ces gens du XXe siècle que vous aimiez, il peut y avoir Louis de Souterre, Louis de Souterre aussi.
Ah oui, absolument. Ah oui, Souterre, c'est merveilleux. Il y a le dernier, la dernière grande admiration que j'ai pour un contemporain, j'aime aimer. Hein, donc ma pente n'est pas...
haïr.
Ah oui, j'aime mieux bénir que honir.
D'accord.
Ah oui.
Bénissons.
Bénissons. Mais c'est, me demandiez, c'est quelqu'un dont j'aime véritablement l'œuvre, c'est Per Kirkeby, qui était le, par ailleurs, il était le conseiller artistique d'un cinéaste que j'aime infiniment, Lars von Trier. Je ne sais pas si vous aimez Per Kirkeby. J'ai eu la chance de voir une... Il y a eu une rétrospective.
Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à Cobra, mais c'est un...
Non, c'est après. Ouais, c'est ah, il est mort il y a peu de temps.
On je vois était... des petits objets, mais je dois confondre avec quelqu'un d'autre.
Je montrerai les catalogues que j'ai, j'en ai beaucoup. Et il y a, dans le cas de Kirkeby, la peinture telle que je rêve de la peindre, ou de laquelle je... du côté de laquelle je me tiens, vous voyez.
Mais Lars von Trier, on a été très impressionnés. Alors, c'est la même chose que ce que vous disiez sur l'interdit du récit, c'était l'aspect très littéraire. Quand il a débarqué le premier film et le second, il y avait un retour d'une espèce de littérature. Enfin, c'était... le premier, c'était un fantastique, comme ça, sur Element of Crimes, qui était très habité, comme Lynch, quoi, qui avait quelque chose de visuel très fort. Et le second, c'était Dostoïevski qui revenait. C'était une espèce d'histoire de bateau, de fille qui allait coucher avec des mecs épouvantables. Enfin, un truc très, très... Un récit très dense à couche, comme ça, très... La façon dont on s'est formé dans la littérature russe à la fin de notre adolescence.
Mais Kirkeby témoigne, en effet, peut-être, c'est les derniers feux. J'espère que ça n'est pas la fin de cet art que j'aime, qui suppose une sorte de pauvreté. Mais c'est véritablement quelque chose de peint, mais où s'esquisse ça et là le paysage. C'est de l'abstraction, mais qui peut provoquer des associations qui excèdent l'abstraction. Et c'est une œuvre qui se tient à la suite, au fond, de la grande aventure de la peinture et de la beauté, telle que je l'entends.
On arrive à la fin de l'émission, et donc... je vois de plus en plus une espèce de retour critique sur support surface. Je vois surgir plein de choses et l'histoire n'a pas encore été écrite. Donc il y aura une grande transformation, j'imagine, dans la suite des jugements de valeur sur ce qui s'est fait depuis 1945. Je vous laisse le mot de la fin. Vous avez...
Ah, le mot de la fin ? Il n'y a pas de fin. Je n'ai pas de mot de la fin à livrer, sinon... de recommander cette exposition qu'il faut absolument voir, même si elle est un peu réduite.
Vous ne préparez pas une exposition, un événement, un autre livre?
Il y a des événements qui s'annoncent, oui, d'autres, mais comme ils ne sont pas encore tout à fait définitivement arrêtés.
On se reverra quand ça sera prêt, on refera une petite chose sur votre actualité. Merci de nous avoir reçus.
Non plus.